Philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 26 janvier 90.
Allons continuer cette étude sur la passion-amour. Donc, nous avions vu, l'amour est-il dans le concubinage?
Désirable, me l'appétit, c'est la pomme, s'imprimant
l'appeler amour, qui n'est rien d'autre que la complaisance dans l'objet du désir. De cette complaisance dérive le mouvement vers l'objet, qui est le désir, et enfin le repos, qui s'appelle joie. Ainsi donc, puisque l'amour consiste dans une certaine modification de l'appétit sous l'influence du désirable, il est évident que c'est une passion, au sens propre, selon qu'il se trouve dans le concupiscible. En un sens plus général, et par extension du mot, en tout ce qui est dans la volonté, en tout ce qu'il est dans la volonté. Vous voyez, comme c'est curieux, hein, ça en est bien en théologie. On passe du concupiscible à la volonté, sans du tout s'inquiéter. Alors ça peut être extrêmement dérangeant au plan philosophique. Oui, bien, on part du concupiscible. Article 1er. L'amour est dans le concupiscible. Deuxièmement, l'amour est passion. Et de là, on passe à la volonté. Or, la volonté n'est pas passion. De l'appétit sensible à l'appétit spirituel. Qu'est-ce qui permet de faire ça pour le théologien? C'est que l'amour est analogique. Vous voyez, c'est présupposé, hein, c'est présupposé. On ne le prouve pas en théologie. En philosophie, on sait que la ratio amoris est une notion analogique.
Sagesse.
passionnel. Alors on prend l'exemple très très simple. Quand je suis en face d'un bien, il y a un désir qui s'éveille en moi. Qu'est-ce que c'est que cet éveil de l'amour par rapport à un bien désirable? Je me connaturalise à ce bien. Je pâtis à l'égard de ce bien. Je me laisse prendre au piège. Si c'est un piège, je me laisse prendre et je me laisse, vous voyez, nécessairement, je me laisse changer, modifier. Je m'adapte. C'est ça l'amour. Et c'est pour ça que l'amour est passion. Dans tout amour, on pâtit. C'est ça qu'il faut saisir. Dans tout amour, on pâtit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tout amour, on est celui qui se laisse prendre par un bien autre que moi qui m'attire. L'attraction du bien sur moi me fait pâtir. Je me laisse attirer. Je me laisse entraîner. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas le bien. C'est le fruit du bien en moi. C'est l'effet du bien en moi. Et quand j'aime, je suis une bonne pâte qui se laisse attirer.
Difficile à traduire. Alors, voyez, je lis la traduction pour que vous ayez bien Je voudrais que vous sentiez ça. Le désirable me l'appétit, s'imprimant en quelque sorte dans son intention. Et l'appétit tend vers le désirable pour le posséder réellement. Ainsi, le mouvement se termine là où il avait commencé. La première modification de l'appétit, qui est provoquée par le désirable, par son objet, est appelé amour. Or, le latin joue sur appetibile, appetitum. Appetitum, c'est l'amour. Oui. C'est-à-dire, l'appetibile modifie l'appetitum. Modifie l'appétit en faisant que l'appétit se laisse emporter par l'appetibile. L'appetibile movet appetitum. Faciens, donc faisant, se faisant d'une certaine manière dans son intention. Faciens, c'est quodam modo ineius intentione. S'imprimant en quelque sorte dans son intention. Faciens, c'est. Alors il traduit s'imprimant d'une certaine manière. C'est pas commode à traduire. Faciens, c'est l'appetitum. Dans l'appetibile movet, donc l'appetitum me, l'appetitum, il me l'appétit. Traduisez appétit. On va essayer de le trouver le plus possible. Il me l'appétit. Il me l'appétit. Faciens se quodam modo ineius intentione. Se faisant, Vatchense, se faisant, d'une certaine manière, quodam modo, ineius intentione. Donc, on pourrait presque dire, travaillant d'une certaine manière son intention, transformant de l'intérieur, Vatchense. C'est très difficile à traduire. Donc, me l'appétit. Qu'est-ce que ça veut dire, me l'appétit? Faciense. C'est. Il travaille, puisque faciense, c'est se faisant d'une certaine manière dans son appétit. Alors, on traduit s'imprimant en quelque sorte dans son intention. C'est juste, s'imprimant, mais s'imprimant, vous voyez, vous avez l'idée, vous affirmez, vous appuyez de l'extérieur, faciense, on montre le mouvement intérieur. S'imprimant, mais alors s'imprimant, il faudrait comprendre que c'est la réaction de l'appétit mu par l'appétibilé. Par le désirable, par le bien désirable, il faudrait mettre. Et alors, se faisant dans son intention, transformant son acte. Tout est là, hein, c'est cette petite phrase qui est très importante. Comme dit Aristote, hein, vous voyez, et saint Thomas se réfère à Aristote, au De Anima. L'appétibile, movet appetitum, il me l'appétit. Faciense, quodam modo, ineius intentione. Se faisant, dans son intention, il agit de l'intérieur. L'amour, il agit de l'intérieur. Faciense, quodam modo, ineius intentione. passion d'éveil. C'est évident. Vous pourriez l'imaginer, mais il y aurait toujours eu une première pomme. Prenez le chocolat si vous aimez mieux, n'est-ce pas? Si le chocolat vous est plus pour vous, appétit millet. Faites la table de vos appétits millet. Le miel. Ah, il y a du miel aujourd'hui. Ah, voilà, c'est très bien. Bon, alors, le bien, c'est le bien sensible. Je crois qu'on devrait traduire le bien sensible. L'appétit millet, c'est le bien sensible. Ce qui est capable d'éveiller en moi un amour passionnel. Alors, ce qui est très beau, c'est de voir cet appétit millet. Il me l'appétit. Il l'attire. Il exerce une attraction. Et cette attraction, faciense quodam modo, inintentionné, il me d'une manière telle qu'il réalise en moi une réaction vitale que je tends vers. Je suis mobilisé par ce bien. Je suis mobilisé et je retourne vers lui. C'est pour ça qu'il dit que l'amour est comme un cercle. C'est très beau, du reste, comme image. Et c'est très vrai, l'amour est comme un cercle. Il attire. Mais alors, il faut comprendre que cette réaction qu'il crée en moi, ce vagiense, retenez la formule, parce qu'elle est très belle, se faisant d'une certaine manière, ce bien extérieur s'intériorise, il mobilise mes forces pour que je tourne vers lui, que je suis entièrement séduit et pris. Je suis attiré, fatiancé, quodam modo, inintentionné, se faisant d'une certaine manière dans l'intention, donc mobilisant toutes les forces vives qui sont en moi pour m'attirer vers lui. Et c'est pour ça que l'amour est une tendance vers. C'est une tendance vers, parce que l'amour est premièrement ce qui me connaturalise à ce bien sensible. Bon, il suffit de réfléchir à n'importe quel amour sensible que j'espère vous avez déjà expérimenté. Le chocolat, le miel, le vin, la tarte à la crème. Vous êtes au niveau du concupiscible. Alors réveillez-vous au niveau du concupiscible. C'est facile, de toute façon, on se réveille facilement, ça. D'habitude, vous ne faites pas attention, vous le dépassez vertueusement. Je ne veux pas regarder cette tarte à la crème. C'est pas pour moi, c'est pour ma voisine, c'est très bien. Je ne le regarde pas. Non, parce que je suis virtuel, alors je télescope la face du concupiscible. Vous voyez, la modestie des regards. Hein. Je télescope, je ne veux pas le regarder. Parce que je sais que si je regarde, je serai attiré. L'odeur des petits pains frais du boulanger. Oh, c'est extraordinaire. Oh, voyez, il me laisse prendre. Je suis attiré. Fatiancé, quodam modo, inintentionné. Alors, je veux bien qu'on traduise comme ça, c'est très difficile à traduire du reste. S'imprimant en quelque sorte dans son intention. Mais vous voyez, s'imprimant en comprenant tout l'aspect actif, fatiancé, se faisant d'une certaine manière dans l'intention, se réalisant dans l'intention. C'est le bien qui se réalise en s'intériorisant, en mobilisant toutes mes forces du concupiscible pour que je sois entièrement tendu vers. Le désirable me l'appétit s'imprimant en quelque sorte dans son intention. Et l'appétit tend vers le désirable pour le posséder réellement. consequendum, vous le possédez pour s'unir à lui. Ainsi, le mouvement se termine là où il avait commencé. C'est très joli que de voir, n'est-ce pas, que la fin du mouvement est là, au principe, que le principe et la fin s'unissent. Oui, dans l'amour, c'est peut-être ça qui fait le mieux comprendre, que dans l'amour, il y a cette union du principe et de la fin, du point de départ et de la fin. C'est pour ça que c'est comme un cercle. La première modification de l'appétit par son objet. Prima immutatio. La première immutatio. La première modification. La première immutatio. La transformation intérieure. Il faudrait ajouter ça. La première modification interne, immutatio. C'est pas une modification extrinsèque. C'est une modification interne. La première modification interne de l'appétit par son bien désirable, c'est l'amour. La première immutatio de l'appétit par l'appétibile, vocatur, c'est ça qui est appelé amour. Et alors, parce que est appelé amour, qui n'est rien d'autre que la complacentia de l'appétit, la complaisance de l'appétit. Complacentia. Sens de l'appétible. On se complaît dans le bien désirable. Se complaire dans le bien désirable, c'est l'amour. Cette complaisance. Cette complaisance, il suit le mouvement vers l'appétible. Le mouvement vers l'appétible, ce n'est plus strictement l'amour, c'est le désir. Le désir ajoute à l'amour l'efficience vers le bien désirable. C'est ça le désir. Le désir mobilise. L'amour, la complaisance. C'est le premier amour. Le premier amour, c'est la complaisance en le bien. Je me laisse prendre. Je me laisse attirer. Et le désir, c'est ce qui suit. Et le repos dans ce bien désiré, c'est la joie, la jouissance. Godio, la joie. On étudie là les trois moments distincts au point de vue passionnel. L'amour, le désir, la jouissance. Alors, il traduit la première modification de l'appétit par son objet, par l'appétible, est appelé amour, qui n'est rien d'autre que la complaisance dans le bien désirable. Et cette complaisance, et de cette complaisance, dérive le mouvement vers l'objet, qui est le désir, et enfin le repos, qui s'appelle joie. Ainsi donc, puisque l'amour consiste dans une certaine modification de l'appétit, immutatio, là encore c'est un terme qu'il faut essayer de remuer, l'immutatio, c'est pas simplement la mutatio. Et quand vous traduisez la mutation, l'excitation de l'appétit sous l'influence du désirable. Par l'appétible, il est manifeste que l'amour est passion. Je crois que vous avez tous compris. Il est évident que c'est une passion, au sens propre, selon qu'il se trouve dans le concupiscible. En un sens plus général, ça c'est le théologien, communitaire au thème, est extenso nomine. En un sens plus général, et par extension du mot, en tant qu'il est dans la volonté. Il est dans la volonté. C'est extrêmement intéressant de voir que l'amour est passion. Et d'une certaine manière, on dira que l'amour est passion, même dans la volonté. Mais ce n'est pas premier. Alors, je voudrais que vous compreniez cette chose très curieuse. Parce que ça, c'est typiquement un point de vue théologique. Je prends l'amour sensible. L'amour, le premier amour dans l'ordre génétique. Je dis, il est passion. Pourquoi ? Parce qu'il implique cette immutation. Cette immutation. Immutation, c'est-à-dire la mutation à l'intérieur, le changement interne. Tout amour me transforme intérieurement et transforme mon appétit sensible, mon concupiscible. Donc, il est passion. Et puis, je passe de cet amour sensible à l'amour spirituel. C'est-à-dire dans la volonté. Et je dis ceci, qui est très intéressant à voir, c'est que cet amour spirituel est aussi passion. D'une certaine manière, le premier analogué du côté de la passion, c'est l'amour sensible. Le premier analogué comme passion, c'est l'amour sensible. Et l'amour spirituel est d'une certaine manière passion. Mais du côté amour, l'amour spirituel est plus amour que l'amour passionnel. Et donc, le premier analogué, c'est l'amour spirituel. Vous voyez bien ça, hein ? C'est très amusant. Au point de vue du langage, l'amour passion est premièrement l'amour sensible. L'amour comme tel est premièrement dans l'amour spirituel. Bon. Je dis, l'amour spirituel est plus amour que l'amour sensible. Mais il est moins passion que l'amour sensible. les différentes manières dont saint Thomas regarde l'amour. Vous voyez, il n'emploie pas toujours le même mot, la complaisance. Il y a le mot complaisance, il y a le mot immutatio, il y a le mot facensi intentionné. C'est très très curieux, c'est tout ce langage pour exprimer ce qu'est l'amour dans son premier moment, dans sa naissance, le premier amour. Alors je prends tout de suite la réponse aux objections. Nulle vertu n'est une passion. Or, d'après Denis, tout amour est une certaine vertu. Oui, alors le jeu, ça d'abord s'amuse, ça va. Le mot vertu signifie le principe du mouvement ou de l'action. C'est pourquoi l'amour, en tant que principe du mouvement de l'appétit, est appelé vertu. Donc on prend vertu dans le sens étymologique, virtus. C'est un principe. La vertu est principe. L'amour est principe. Donc l'amour est vertu. Mais c'est pas ce qu'il y a de propre à l'amour. L'amour est une certaine union et un lien, dit saint Augustin. Amor est unio quedam, nexus. Ah, d'autres expressions. L'amour est union, l'amour est lien. Or, l'amour, or l'union, le lien, ne sont pas une passion, mais plutôt une relation. Alors, saint Thomas répond, l'union se rapporte à l'amour en tant que, par la complaisance de son affectivité, l'aimant se comporte à l'égard de ce qu'il aime, comme à l'égard de soi-même, ou de quelque chose de soi. Et par suite, l'amour n'est pas la relation. Et par suite, l'amour n'est pas la relation d'union elle-même, mais l'union procède de l'amour. Ce qui fait dire à Denis que l'amour est une force unitive, ou au philosophe que l'union est l'œuvre de l'amour. Opus amoris. L'union, c'est opus amoris. Donc, l'union n'est pas l'amour, mais le fruit de l'amour. Or, ce qu'on cherche, c'est le « qu'est-ce que c'est que l'amour ?» L'amour est plus que l'union, puisque c'est la source de l'union. Donc, l'amour, l'union n'expliquera jamais ce que c'est que l'amour. L'amour est plus, elle est la source. Enfin, dernière objection, saint Jean Damascène, oui, on remue tout le monde, Denis, Augustin, Damascène, c'est très très beau, là. Les trois néoplatoniciens, Denis, Augustin, Damascène, les trois grandes sources néoplatoniciennes, et on montre qu'on va plus loin qu'eux. Ça c'est un, à ce point-là, c'est un petit chef-d'œuvre, cet article 2, parce qu'il nous montre qu'on se sert des propriétés pour définir. Et saint Thomas, dans le corps de l'article, montre qu'il ne faut pas s'arrêter aux propriétés, qu'il faut aller plus loin. Alors, vous avez donc les trois grandes propriétés de l'amour. La stratégie, hein, une stratégie militaire. Chaque article est une stratégie militaire. Vous savez, le point de vue, la virtus, la vertu. Mais des virtus, c'est mieux. Parce que le mot latin virtus exprime beaucoup mieux l'aspect de l'efficience, du principe, que vertu. C'est curieux, hein? Le français est satiété. Tandis que le latin, pas la même chose du tout. Regardez la différence entre vertu. Ah, ce qu'il est vertueux, ce bonhomme-là. Virtus. Il a déjà passage en Amazone. Et trois courants néoplatoniciens. Et puis, troisième néoplatonicien. Alors, on dit que l'amour, Saint-Jean d'Amasène écrit que la passion, c'est un certain mouvement. Or, l'amour n'est pas un mouvement de l'appétit, comme le désir. Il n'est donc pas principe. Donc ici, on prend le point de vue du mouvement, plus d'un mot tous. Vous voyez, l'article va montrer que l'amour est source. Virtus, oignon, effet. Alors, c'est très vrai, puisque l'amour est source. Je peux le considérer comme étant un principe. Quand j'aime, je suis capable de faire des quantités de choses. Je suis réveillé. Mon cœur se réveille quand il aime. Autrement, il dort. L'oraison, hein. Quand il aime, il est éveillé. Donc, l'union, c'est les conséquences. C'est le fruit. Et le mouvement, c'est